ambiance, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance.
Hey, ambiance Africa, oh, 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 avec Aïssa Diam. C'est l'Afrique qui bouge à Paris.
L'Afrique qui bouge à Paris, justement, avec notre invité qui vient tout juste de s'installer sur le plateau de la radio africaine, que j'accueille avec beaucoup de plaisir, Eustache Agoumkpé. Merci de nous rejoindre. Votre nom d'artiste, c'est Eustache. Vous êtes artiste plasticien, togolais, mais aussi béninois. Vous êtes né à Lomé, au Togo, en 83, d'un père béninois et d'une mère togolaise. Et vous êtes venu nous parler de votre actualité à travers deux expositions. Une sur le roi Béhanzin et une sur les tiradailleurs sénégalais morts pour la France à Tcharoy le 1er décembre 1944. Alors, bienvenue sur l'antenne d'Africa numéro 1, vous allez bien ?
Merci Essa, merci de me recevoir, oui je vais bien.
Alors, ce travail autour de l'histoire et de l'environnement, puisque vous présentez comme un artiste écolo engagé dans l'histoire et l'environnement, et vous allez accueillir le public pour deux expositions. D'abord, une sur le roi Béhanzin, Béhanzin, panthéon africain de la résistance. C'est une exposition qui a déjà tourné à travers la France, le monde, qui était d'ailleurs à l'ambassade du Bénin en juillet dernier, notamment. Alors, merci de nous présenter un peu votre travail. Alors, parlez-nous un petit peu de cette exposition. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir retracer l'histoire du roi Béhanzin ?
Merci Aïssa. Ce qui m'a poussé à retracer l'histoire du roi Béhanzin, c'est à travers la deuxième expo aussi, c'est de pouvoir répondre à des questions que les Français, les Occidentaux se posent et que les élites européennes en fait n'arrivent pas à répondre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui lie les anciennes colonies françaises d'Afrique et la France. Ouais. Donc Béhanzin, qui va être un résistant à la colonisation comme Samori Touré et El Hadjouma, qui dira « Non, j'ai besoin de personnes sur mes terres pour me donner des leçons, notamment au Dahomey, donc l'actuelle République du Bénin, la partie sud de l'actuelle République du Bénin. » Donc Béhanzin va se confronter à deux grandes guerres qu'on appelle les guerres du Dahomey, face à une France qui était prête à tout pour conquérir son territoire de force. Donc après la conférence de Berlin, on sait très bien que la France, l'Occident, va partager le continent africain comme un petit gâteau.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, beaucoup la nouvelle génération ne sait pas en fait exactement ce qui s'est passé, pourquoi il y a aussi en fait d'étrangers aujourd'hui en France. Donc c'est en quelque sorte pour répondre un peu à ces questions que beaucoup se posent. Béhanzin va être déporté deux fois, une première fois en Martinique, une deuxième fois en Algérie, où il va décéder le 10 décembre 1906. Donc c'est une exposition qui retrace, en fait, engagé dans l'histoire, qui retrace la vie de Béhanzin, son combat, sa résistance, avec ses Amazones d'ailleurs, qui sont des femmes très, qui reçoivent une formation militaire. Il en avait plus de 5000, à qui je rends encore hommage aujourd'hui à travers la reine Tassi Rangbe, qui a été la seule femme qui a régné sur le trône du Dahomey. Donc c'est pour réellement en fait répondre aux questions que les gens se posent. Engagé dans l'environnement à travers les matériaux que j'utilise, donc la terre, le charbon de bois, du marc de café, du kaolin, du
tissu. Une matière naturelle, donc
ouais, dans un style très ancestral, comme le faisaient les artistes de la cour royale de la Bohème.
Alors, qu'est-ce qui vous a transmis cette histoire ? Comment vous l'avez découverte ? Et pourquoi c'était important pour vous de la raconter, de la retransmettre ?
C'est important parce que je pense que la génération actuelle, en fait, elle est importante pour cette génération de découvrir cette histoire qu'ils n'ont pas la possibilité ou qu'on ne leur apprend pas dans les écoles françaises. Béhanzin parlait de son histoire, c'est en quelque sorte extérioriser en fait ce que je vis, ce que j'ai traversé en fait. La xénophobie, et puis le racisme, des propos des fois qui sont très blessants. Et avec du recul, je me rends compte en fait que c'est des personnes qui forcément ne connaissent pas en fait l'histoire de la France, qui ne savent pas qu'en fait il y a des Africains qui sont morts pour la France, qui sont morts par la France, qui ont versé leur sang pour la France. Et c'est une façon pour moi en fait de répondre. Quand je prends par exemple le Bénin, on retrouve des avenues Charles de Gaulle, on retrouve des boulevards Giscard d'Estaing, on retrouve des rues Victor Ballot, alors qu'en France, malgré qu'il y a une histoire qui lie ces anciennes colonies à la France, si c'est pas la femme de Thomas Sankara qui s'est battue pour qu'à Montpellier il y ait une rue qui porte son nom, une grande partie, il n'y a aucune rue qui porte le nom de Béranzien ou d'un un roi qui ait fait l'histoire de l'Afrique.
Alors, il y a également cette deuxième exposition qui rend hommage aux tirailleurs sénégalais et plus précisément qui insiste sur le massacre de Tcharoy. C'est une manière pour vous de rendre hommage à ces tirailleurs, ces soldats indigènes qui se sont battus pour la France.
Oui, je voudrais en fait rectifier un truc, c'est qu'ils ne sont pas en fait à Tcharoy, ils sont morts par la France. Ils ne sont pas morts pour la France à Tcharoy. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais vont avoir un rôle très important aux côtés de la France. C'est des personnes qui ont été qu'on allait chercher dans les anciennes colonies françaises d'Afrique notamment. Donc tirailleurs sénégalais, il faut rappeler aussi que c'était pas que des Sénégalais, que le premier contingent donc de tirailleurs était basé au Sénégal, d'où ce nom. Donc il y avait des gens du Bénin, du Togo, du Tchad, du Gabon, et ainsi de suite, qui sont venus se battre dans le rang des soldats français.
Ouais.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, donc qui en France est considéré comme un héros et qui pour moi est un criminel parce qu'il va ordonner pas mal de crimes, par exemple au Cameroun avec l'assassinat du peuple Bamileke, plus de 500 000 Bamileke assassinés, va ordonner à ce qu'on appelle le blanchiment des troupes. Donc le blanchiment des troupes, c'était de remplacer les soldats noirs par des soldats blancs pour que ce ne soit pas en fait ces soldats noirs indigènes qui ont libéré la France ou participé à la libération de la France. Donc il y avait en fait dans toute la France des Stanslags, donc c'était des prisons qui étaient sous les nazis, où tous les soldats noirs étaient emprisonnés parce qu'il n'était pas question pour les nazis d'amener sur leur sol les Noirs, parce qu'ils n'avaient pas d'une contamination raciale. Donc à la libération, tous ces soldats qui étaient dans les Stanslags, dans les prisons en France, on les libère, y compris ceux qui étaient en fait ont été blanchis, et on devait leur payer ce qu'on leur devait. Donc on leur dit, écoutez, on vous paye une partie, et l'autre partie, on vous le paye une fois que vous arrivez à Dakar, à Tcharoy. Donc il faut rappeler que Tcharoy se trouve à 15 km de Dakar, et c'était un camp militaire. À Morlaix, donc sur le bateau, le Sicarcia, qui est un bateau britannique qui devait embarquer 2000 tirailleurs sénégalais pour Dakar, il y a 315 tirailleurs qui vont refuser d'embarquer, qui diront, écoutez les gars, nous on se transforme en gilets jaunes, si vous ne nous payez pas, on ne bouge pas.
Ils ont demandé leur solde.
Tout à fait, vous nous payez complètement parce que nous, on ne sait pas bon cette affaire-là, voilà, on va se faire avoir. Les 315 vont être pris et jetés dans des prisons, donc attrivés dans les Côtes d'Armor. Ils vont vivre des situations vraiment tragiques. Il y en a qui vont te tuer, malmener, maltraiter. Et ça a été une grosse déception pour eux parce que déjà, sous les nazis, ils étaient emprisonnés. À la libération, la France pour laquelle ils se sont battus, les prend encore et les jette dans des prisons. Donc c'était la totale. Donc le reste, 1700 et quelques qui embarquent à bord du Sicacia en direction de Dakar, vont vivre une situation catastrophique. Ils arrivent à Tcharoy, ils vont réclamer ce qu'on leur doit. Et le général Marcel Dayan, qui était commandant de ces troupes, voilà, il va avoir une rébellion pacifique de réclamation de solde de ce qu'on leur doit, va leur dire, écoutez les gars, j'arrive demain, je vous paye. Donc il arrive le 1er décembre 1944 avec des chars, des autres mitrailleurs, et va ordonner à ce qu'on fusille en fait tous ces tirailleurs sénégalais. Et le gros mensonge d'État qui est perdu jusqu'à aujourd'hui, c'est le nombre de morts.
Ouais.
Dans son rapport officiel, donc, le général Marcel Dayan avec ses équipes reconnaissent qu'il y a 70 morts, c'est-à-dire que 35 morts qui ont succombé tout de suite et 35 autres qui sont morts de la blessure plus tard. Donc ça fait 70 morts. Et le seul qui a eu un peu le culot de parler de ça en 2014, c'est François Hollande, qui n'ira pas au-delà en fait, de cette thèse de 70 morts. Il dira, voilà, ils sont venus nous aider, ils ont combattu pour nous, et en retour pour les remercier, nous avons retourné nos armes contre eux. Sauf qu'il y a un gros mensonge. Ce gros mensonge, c'est que c'est plus de 300 à 400 tirailleurs sénégalais qui ont été tués comme des sauvages, des siens, et enterrés dans des fosses communes à Tcharoy.
Comment vous avez mené à ces recherches ?
Ben écoutez, je m'appuie en fait sur une thèse d'Amel Mabon, qui est une prof d'histoire, en fait, chercheuse à l'Université Bretagne Sud, avec qui en fait je m'appuie sur le travail qu'elle a eu à faire. Et on retrouve en fait, on découvre hein, à travers les rapports qu'il y a un gros mensonge, parce que pour maquiller le nombre de morts à Tcharoy, on va dire en fait qu'à Casablanca, pendant l'escale de ce bateau Sicarcia, il y a eu des tirailleurs sénégalais qui sont descendus.
Ouais.
Et heureusement que le Sicarcia, c'est pas un bateau français, c'est un bateau britannique, et que les rapports qu'on retrouve au niveau de la capitainerie disent que tout s'est bien passé à Tcharoy. Donc on voit un peu toutes les tractations, tout le mensonge d'État qui perdure depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui.
Alors, ça fait aussi l'objet d'un livre intitulé « Tirailleurs sénégalais et le massacre de Tcharoy » qu'on peut se procurer sur Internet.
Sur Internet, en fait, qu'on peut, en fait, sur ma page Facebook, Stache, en fait, on peut commander ce livre. Il n'est pas encore dans les librairies, à la FNAC et tout ça. Ça va venir.
Alors, pour voir l'exposition sur le roi Béhanzin, ça se passe les 20, 21 et 22 février à l'école normale supérieure, salle Dussane. L'adresse est 45 rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement de Paris. Et il y a une conférence.
Le 22 février.
Le 22 février, en votre présence.
Ah oui, tout à fait, c'est animé par moi-même, cette conférence. Donc, c'est pour clôturer cette exposition de 3 jours. Et je remercie d'ailleurs l'ambassade du Bénin qui, à travers le partenariat qui se noue avec l'École normale supérieure de Paris, a permis cette exposition de 3 jours avec une conférence pour clôturer ça. Donc c'est vraiment pour retracer la vie du roi Béhanzin et permettre aux Normaliens aussi en fait, de découvrir en fait, qui est ce grand roi d'Afrique qui a fait son histoire.
Et pour l'exposition sur les tirailleurs ?
L'exposition sur les tirailleurs, la première expo sur les tirailleurs sénégalais a commencé dans le 71 à Paris Le Monial, donc c'était du 28 janvier jusqu'au 12 février.
Oui.
Donc ça a duré une semaine finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout pour des raisons personnelles en fait. Et cette expo sur les tirailleurs sénégalais a été, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été fascinées, émues par la qualité de l'histoire, du travail. C'est une histoire qu'elles ne connaissaient pas en fait d'ailleurs, parce qu'on ne leur apprend pas ça à l'école. Et ils se sont étonnés de comprendre qu'en fait des personnes se sont battues pour la France et qu'en retour on les a en fait assassinées pour le fait qu'ils réclament ce qu'on leur devait.
Comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur votre travail, Eustache Akoumkpé ?
Akoumkpé, oui. Pas évident.
Ou Eustache ?
Eustache. En fait, pour un peu plus d'infos, ma page, elle est très, très active, très animée, dans ma page Eustache, S'TACH, avec un logo gris à côté certifié. Voilà, donc on peut me suivre là. J'ai aussi un blog qui n'est pas quand même, c'est pas trop animé par rapport à ma page Facebook. Je suis beaucoup plus tactile avec mon téléphone.
D'accord.
Donc, okay. Je parle un peu rapidement plus de ce que je fais sur Facebook.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui nous écoute ce matin ?
Ben, au public qui nous écoute ce matin, voilà, je les attends nombreux hein, à cette exposition de 3 jours à l'École normale de Paris. L'entrée est libre et gratuite. Donc voilà, je les attends avec un gros sourire pour les accueillir et puis pour leur faire voyager à travers l'histoire de l'Afrique. Via le roi Béhanzin.
L'exposition est à voir du 20 au 22 février avec une rencontre le dernier jour, le 22, École normale de Paris, salle Dussane, 45 rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement de Paris. Merci.
De Paris,
beaucoup,
tout à fait. Et je rappelle que je serai présent pendant les 3 jours d'exposition.
Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau ce matin.
C'est
bientôt.
Moi, Issa. Merci. Je vous remercie.
Je sens qu'il va me rendre malade. Il n'est jamais là tous les soirs. Il se refait sa life. Je m'apprête à me faire toute belle pour lui. Mais il n'y a personne, y a personne. Il est minuit. Je regarde chaque minute. Allongé sur.